Les mystères du Palais Royal, quatrième partie. Chapitre 13. L'hôtellerie du port armé. Un soir, à 55 ou 60 lieues de Paris, Hébé et la mère Moloch arrivèrent dans un village et s'arrêtèrent en face d'une hôtellerie d'assez misérable apparence. Au-dessus de la porte de cette hôtellerie se balançait une lourde plaque de fer battue, suspendue par deux crampons à une sorte de potence. Sur cette enseigne se voyait, peint à l'huile par quelque artiste nomade, un animal quasi fantastique, moitié sanglier et moitié cochon, revêtu d'une brillante armure, debout sur ses pattes de derrière et brandissant un glaive flamboyant. Au-dessous se lisait cette légende tracée en gros caractères. Au port armé, bon logis. Hébé fit résonner son tambour de basque et commença l'une de ses chansons. Une demi-douzaine de femmes et d'enfants et deux ou trois paysans sortirent des maisons les plus voisines et vinrent former le cercle autour de la chanteuse. Quand elle eut achevé, aucun des auditeurs ne fouilla à sa poche pour en tirer la moindre pièce de cuivre. Hébé ne recueillit pas un sou. La mère Moloch proposa alors aux paysans de leur dire la bonne aventure, moyennant la plus modique rétribution. Mais ils s'éloignèrent aussitôt, en donnant tous les signes d'un effroi non équivoque. « Nous souperons mal ce soir, » murmura Hébé avec un sourire un peu triste. « Combien vous reste-t-il, ma mère ?»«
Pas tout à fait 30 sous, » répondit la mère Moloch. « Pour cette somme, on nous donnera bien du pain et du fromage, et deux bottes de paille sur lesquelles nous dormirons. »
Les deux femmes entrèrent. Le maître de l'hôtellerie était un homme gros et court, de l'aspect le plus sinistre. Une double cicatrice lui sillonnait la figure et en augmentait la repoussante étrangeté. La première de ces cicatrices était une longue balafre, partageant en deux parties la joue gauche. La seconde allait d'une oreille à l'autre au-dessous du nez. La lèvre supérieure manquait entièrement et laissait voir des dents écartées et pointues, comme celles d'un loup, enchâssées dans des gencives noirâtres.
« Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda brutalement cet homme. « Peut-on coucher et souper chez vous ? » fit la mère Moloch.
« Oui, en payant. »
« Combien nous prendrez-vous ? »
Cela dépend du souper et du coucher.
Voilà tout ce que nous possédons, dit la vieille femme en tendant à l'hôtelier les pièces de cuivre qui ballottaient au fond de sa poche. Ce dernier les compta d'un air dédaigneux, fit une grimace significative et glissa ses quelques sous dans la poche de sa veste.
On vous nourrira et on vous hébergera en conséquence, dit-il ensuite.
Il s'arma d'un long couteau, il coupa un gros morceau de pain dur, un fragment étroit de lard rance, et mettant le tout sur une petite table avec une cruche d'eau et un gobelet, il ajouta
« Voici votre souper. Quant à votre chambre, la voilà. »
Et tout en parlant, il ouvrit la porte d'un cabinet noir et malpropre, dans lequel se voyait un amoncellement de bottes de paille. Deux poules s'en échappèrent, effrayées. Une fenêtre, dont les carreaux étaient cassés, ouvrait sur la basse-cour. Hébé et la mère Moloch mangèrent tristement la misérable nourriture qui leur était offerte. Une fois que leur appétit fut apaisé, et cela arriva bien vite, elles sortirent de l'hôtellerie. La soirée était magnifique. Toutes deux s'assirent sur un banc de pierre placé à côté de la porte. Elles étaient là depuis 5 minutes, n'échangeant aucune parole, quand un bruit de grelots se fit entendre à quelque distance. Bientôt apparut un groupe composé de 2 personnes et d'un cheval. Le cheval était de petite taille, très maigre et bizarrement caparaçonné. Il portait autour du cou un collier orné de sonnettes retentissantes dont nous venons de parler. Sur le large bas de ce cheval était assise une femme dont on ne pouvait voir la figure, car elle disparaissait tout entière sous les longs plis d'un voile épais. Derrière cette femme se trouvait une valise de cuir, solidement bouclée, avec des courroies et des cadenas. Il eût été difficile d'imaginer quelque chose de plus étrange que la figure et la tournure de l'homme qui conduisait le cheval par la bride. Cette créature bizarre ressemblait assez bien à l'un de ces gnomes gardiens de trésors dont les légendes du Moyen-Âge peuplaient les royaumes souterrains. Cet homme singulier n'avait pas plus de 4 pieds de haut. Il était bossu par devant et par derrière. Son visage anguleux, jaune comme l'écorce d'un citron, offrait une expression tantôt joviale, tantôt effrayée. Ses petits yeux gris clignotants semblaient à la fois réjouis et craintifs.
Sa bouche large et bien meublée exprimait, comme les yeux, tantôt la satisfaction, tantôt l'inquiétude. Le crâne absolument chauve du petit homme contrastait avec sa barbe rousse et touffue, mêlée de mèches blanches et tombant jusque sur sa poitrine. Il portait un vêtement de voyage fort simple et qui ne pouvait en aucune façon attirer l'attention sur lui. Ce personnage grotesque pouvait avoir de 66 à 70 ans. Arrivé en face de l'hôtellerie, il ralentit le pas du cheval qu'il conduisait et enfin il l'arrêta tout à fait. « Hé, l'hôte » cria-t-il. « L'hôte !» Sa voix était aigre et elle avait un accent italien très prononcé. Le maître de l'hôtellerie parut sur le seuil. Son visage difforme n'était pas moins renfrogné qu'au moment où il parlait à la mère Moloch et à Hébé. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda-t-il. « Peut-on loger chez vous ? Vous voyez bien que c'est une auberge. Et souper ? Pourvu qu'on ne soit pas trop difficile. Et mettre mon cheval à l'écurie ?» L'hôte haussa les épaules et ne se donna pas la peine de répondre. Le petit homme reprit. « Il me faut 2 chambres, une pour ma fille, l'autre pour moi. Il m'est indifférent que la mienne soit un vrai trou. Pourvu que ma fille se trouve bien, vous aurez 2 chambres, et elles seront belles l'une et l'autre. Et pour souper, il y a un morceau de viande cuit au four. Est-ce que vous ne pourriez pas faire cuire un poulet pour ma fille ? On le tuera. » Et tout cela ne coûtera pas trop cher ? Je vous ferai payer ce que cela vaudra. C'est bien ce que je voulais dire. Vous nous traiterez en conscience, en honnête homme. Je suis un honnête homme, monsieur le voyageur, entendez-vous ? Eh, monsieur l'hôte, je n'en ai jamais douté. Où est l'écurie ? Dans la cour, à gauche. Je vais y mener mon cheval, quand ma fille sera descendue. Voulez-vous pendant ce temps-là la conduire à la chambre qu'elle doit occuper ? « On mènera votre cheval. »« Non, non, » dit le petit homme vivement. « Je veux l'installer moi-même devant son râtelier. C'est une bonne bête et j'y tiens beaucoup. »« Il ne vaut cependant pas 10 écus, » murmura l'hôte assez haut pour être entendu. Le petit homme ne répondit pas. Il s'approcha de sa fille et lui dit « Déborah, mon enfant, appuie-toi sur mon épaule pour sauter à terre. » Déborah, puisque tel était le nom de cette femme, fit semblant de s'appuyer plutôt qu'elle ne s'appuya. Et s'élançant légèrement, toucha le sol du bout de ses petits pieds. En ce moment, les plis de son voile s'écartèrent. Hébé entrevit un visage d'une merveilleuse beauté. Chapitre 14. Le garçon d'écurie. Cependant, tandis que la jeune fille, conduite par l'hôtelier, entrait dans la maison, le petit homme à figure et à tournure bizarre se dirigeait du côté des écuries, tirant toujours son cheval par la bride. La basse-cour n'était pas mieux tenue que le reste de l'auberge. Des amas de fumier et d'immondices de toutes sortes l'encombraient et ne laissaient pour ainsi dire aucun passage libre. Avant d'arriver à l'écurie, ou plutôt à l'étable, il fallait entrer jusqu'au-dessus des chevilles dans une fange noirâtre et malodorante. Le petit vieillard, en accomplissant ce trajet périlleux, jura, pesta et appela 20 fois à son aide le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Enfin, il parvint à l'étable. Une vache et un âne, jusqu'au jarret dans une boue presque liquide, méditaient côte à côte et d'un air profondément triste en face d'un râtelier vide. Non loin d'eux, un grand gaillard ronflait, étendu sur un tas de litière. Réveillé par le bruit que faisaient le cheval et le voyageur, il se leva et fit quelques pas en avant. C'était un jeune homme dont la mine ne semblait pas plus avenante que celle de l'hôte. La petite vérole l'avait complètement défigurée et son visage offrait des cicatrices rougeâtres, presque aussi hideuses que les balafres de son maître. « Attendez, » dit-il, « je vais vous donner un coup de main. »« Non, non, ce n'est pas la peine, » s'écria vivement le petit vieillard. « Je ferai bien tout seul. Trouvez-moi seulement du foin et de l'avoine. » Mais le garçon d'écurie ne sembla tenir aucun compte de cette recommandation. Il porta la main sur le harnachement du cheval et se mit en devoir d'en déboucler les sangles. Le petit vieillard donna des signes manifestes d'inquiétude. Il tourna vivement autour de son cheval et dit « Eh bien, débridez-le, puisque vous y tenez. Il sera temps de le desceller plus tard. »« Ah ? » répliqua le garçon. « Je vais d'abord ôter ce porte-manteau. » Le vieillard pâlit.
« N'y touchez pas, » balbutia-t-il.
« Pourquoi donc ?»«
Oh, pour rien. Je voulais dire, rien ne presse. »
Mais déjà, le garçon d'écurie avait dénoué les lanières qui attachaient la valise à la selle. L'agitation du vieillard était à son comble. Il s'efforça de tirer la valise à lui. Le garçon, plus vigoureux, l'avait tirée de son côté et la soulevait.
« Ah bah !» fit-il d'un air d'étonnement. « Comme c'est lourd ! Cela pèse au moins 50 livres !»«
Oh ! Vous voulez plaisanter, mon ami ?
50 livres ? Y pensez-vous ?
Si c'est de l'argent qui est là-dedans, la somme doit être un peu ronde. »
« De l'argent, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de l'argent !»
Et le vieillard s'efforça de rire. Mais son rire était contraint et en quelque sorte convulsif. Il poursuivit
« De l'argent ? Ah, je le voudrais de tout mon cœur ! Je serais plus riche que je ne le suis, hélas !
Mais qu'est-ce donc ? Du plomb, mon bon ami, de pauvres petits lingots de plomb,
et aussi quelques morceaux d'étain.
Tout cela ne vaut pas 4 sous.
« Vraiment ? » fit le garçon d'un air ironique. « Aussi vrai que je m'appelle Ézéchiel Nathan. »«
Ah, vous êtes juif ? » ?»«
J'adore le Dieu de mes pères, et quoiqu'il abandonne son serviteur dans la misère, j'observe de mon mieux ses commandements. »«
Mon bon ami, voulez-vous me rendre cette valise, je vous en prie ?»«
Tendez les bras, » fit le garçon.
Le juif obéit. La sacoche de cuir fut jetée à toute volée, et il faillit ployer sous le poids. Dans le choc, un bruit métallique argentin s'en échappa. De pâle qu'il était, le juif devint livide. Mais le garçon d'écurie sembla n'avoir fait aucune attention à la dernière particularité que nous venons de rapporter.
« Qu'est-ce qu'il faut donner à votre bidet ? » demanda-t-il.
« Du foin et de l'avoine, mon bon ami. En assez grande quantité pour réparer les forces de l'animal.
Mais ménagez ma pauvre bourse.
« Soyez tranquille, cela ne vous coûtera pas cher. »«
Et, reprit le juif, si vous avez bien soin de ma bête, il y aura quelque chose pour vous demain matin. »«
Ah, vous couchez ici ?»«
Sans doute. »«
Eh bien, dormez tranquille, le bidet ne manquera de rien. »
Après cette conversation, Ézéchiel Nathan, portant dans ses bras sa valise, quitta l'étable, traversa de nouveau la basse-cour et entra dans l'hôtellerie. Hébé et la mère Moloch se trouvait toujours sur le banc, auprès de la porte. Chapitre 15 Maître et valet. Montons, s'il vous plaît, au premier étage, et rejoignons-y le juif et sa fille. Ézéchiel Nathan et Déborah, nos lecteurs l'ont déjà compris sans aucun doute, sont nos deux anciennes connaissances de la rue Saint-Honoré. Nous n'entrerons donc dans aucun détail relativement à la jeune fille. La pièce dans laquelle elle se trouvait et qui communiquait avec une seconde chambre était grande et dans un état de délabrement prodigieux. Le plancher, chercé dans maint endroit, tremblait sous les pas de celui qui le foulait. Le lit, recouvert d'une maigre paillasse, d'un matelas problématique et de draps d'une blancheur suspecte, était à baldaquin et à colonnes torses. L'une de ces colonnes manquait. Quelques lobes déchirés, ayant été jadis des rideaux de toile peinte, pendaient, accrochés au baldaquin. Une antique commode, ventrue et boiteuse, et deux fauteuils menaçant ruine, complétaient le mobilier de cette chambre. Ajoutons cependant, pour mémoire, une cage à poulet vide, deux sacs de noix, et sur la cheminée une bouteille servant de flambeau, dans le goulot de laquelle était fichée une chandelle. Déborah, assise auprès de la fenêtre, dans le plus solide des deux fauteuils, attendait son père. Elle fixait sur les solives noires et enfumées du plafond son regard distrait et un peu rêveur. Dès son arrivée dans la chambre en question, elle s'était débarrassée de son voile, et au milieu de l'ignoble et sordide misère que nous venons de décrire, elle ressemblait à une jeune reine. Pour emprunter à l'art une comparaison qui nous semble juste, on eût dit une tête splendide, peinte par Raphaël, dans un cadre de bois vermoulu et couvert de toiles d'araignée. La porte s'ouvrit. Ézéchiel Nathan, continuant à serrer contre son cœur sa précieuse valise, parut sur le seuil, conduit par le maître de l'hôtellerie. Ce dernier n'avait pas encore vu Déborah, un visage découvert. En face de cette rayonnante beauté, il resta comme ébloui.
Puis ses prunelles s'allumèrent. Un éclair d'effroyable concupiscence jaillit de ses regards. Un rictus effrayant agita la place où aurait dû se trouver sa lèvre supérieure. Pendant quelques secondes, le visage du gros homme ressembla à celui d'un monstrueux satyre. Ni Nathan ni Déborah ne remarquèrent cette expression.
« Quand voulez-vous souper ?» demanda l'hôte avec son ton bourru.
« Quand le souper sera-t-il prêt ?» fit Nathan.
« Dans une heure. Il faut le temps d'attraper le poulet, de le tuer
et de le faire cuire. »«
Eh bien, soit, dans une heure. Mangerez-vous ici ou en bas ?»«
Ici, ici !» dit vivement Nathan.
« Je ne veux pas que ma fille descende dans la salle commune. »«
C'est bien. On viendra dresser la table tout à l'heure. »
Et l'hôte, après avoir jeté un dernier regard sur Déborah, sortit de la chambre et referma la porte derrière lui. Nathan se dirigea vers le lit. Il prit la valise et la déposa avec précaution sur les matelas. Nathan s'approcha ensuite de sa fille et, après avoir mis un baiser sur son beau front, il lui dit
« Quelle frayeur il m'a faite tout à l'heure !»«
Qui donc, mon père ?» demanda Déborah.
« Ce garçon d'écurie, qui m'a aidé à ôter le harnachement de Roboam. »
« Et comment cela ? » ?»«
Figure-toi qu'il a voulu détacher lui-même la valise. »
« Eh bien ?»«
Eh bien, il a fait la remarque qu'elle était horriblement lourde et qu'elle devait contenir une grosse somme. »
« Il avait raison, ce me semble. »
« C'est justement parce qu'il avait raison que je tremblais. Songe donc, 20 000 écus en or et en argent, sans compter les bijoux. Quelle imprudence de voyager avec de semblables valeurs. »
Et qu'avez-vous répondu ?
Que cela pesait beaucoup et ne valait guère, attendu qu'il ne s'agissait que de petits lingots de plomb et d'étain.
Et vous a-t-il cru ?
Parfaitement.
Alors, vous n'avez rien à craindre ?
Non, sans doute. Mais ne voilà-t-il pas qu'il s'est avisé de me jeter la valise sur les bras ? Les écus en s'entrechoquant ont fait un bruit auquel il était impossible de se tromper, pour peu qu'on eût l'oreille fine.
Ceci est fâcheux, dit la juive de l'air du monde le plus indifférent. Heureusement, poursuivit Nathan, heureusement qu'il n'a pas entendu. Mais je te jure, par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que je m'estimerai fort heureux quand tout cet argent sera en sûreté dans le coffre-fort de notre logis.
Combien nous faut-il encore de jours pour arriver à Paris, mon père ?
5, mon enfant. Il me tarde autant qu'à vous d'arriver, car ce voyage à cheval est bien fatigant.
C'est toi qui as voulu m'accompagner.
C'est vrai. Outre la crainte de rester toute seule à Paris, il m'aurait semblé que sans moi il vous arriverait quelque malheur.
Chère fille, et Nathan embrassa de nouveau Déborah avec la plus paternelle tendresse. En ce moment, une sorte de maritorne au tablier gras vint dresser la table et mettre le couvert. La chandelle qui se trouvait sur la cheminée prit place au milieu de la table et fut allumée, car la nuit était venue. Quand la servante eut achevé tant bien que mal sa besogne, Nathan s'approcha de la porte afin de se rendre compte des moyens de fermeture intérieure. Ces moyens étaient assez peu satisfaisants. La serrure, toute détraquée, laissait beaucoup à désirer sur le rapport de la solidité. Mais il y avait un petit verrou. Après cet examen, Nathan procéda à l'inspection de la seconde pièce. Elle était dans le même état de délabrement que la première, seulement on n'y voyait aucune porte de communication avec le dehors.
« Tu prendras cette chambre, » dit-il à sa fille.
« Oui, mon père, » répondit-elle.
« Au moins, ainsi, il serait impossible d'arriver à toi sans passer d'abord devant moi. Et en cas de péril, j'ai là 2 compagnons qui ne badinent point. »
Et Nathan tira de ses poches des pistolets de petite dimension. On servit le souper. Il consistait en 9 frais, en un morceau de viande cuite au four et en un poulet rôti avec du pain et avec du vin. Les œufs avaient 6 semaines de date. Le morceau de viande était avancé. Le poulet était un vieux coq. Le pain était dur et le vin aigri. Nathan et Déborah purent à peine manger.
« Ah, les brigands !» murmurait le juif. « Quel souper ! S'ils nourrissent Roboam de la même façon, la malheureuse bête ne pourra pas te porter demain.
Ce qui ne les empêchera pas, les amalécites qu'ils sont, de nous faire payer tout cela bien cher. » Qu'il soit maudit jusqu'à la 14e génération.
Déborah s'efforça de calmer son père en lui affirmant qu'elle n'avait pas le moindre appétit et que son unique désir était de prendre un peu de repos. En conséquence,
la jeune fille se retira dans la chambre qui lui était destinée, et Nathan fit ses préparatifs pour la nuit. Ils étaient des plus simples. Le juif ôta le traversin de son lit et le remplaça par sa valise de cuir, autour de laquelle il roula les draps. De cette façon, et tandis qu'il dormirait, sa tête reposerait sur son trésor. Il traîna jusqu'auprès du lit la table sur laquelle le souper avait été servi. Il visita avec le plus grand soin les pierres et les amorces de ses pistolets, et il les plaça sur la table à portée de sa main. Ceci fait, il se coucha. Il éteignit la lumière. Mais au lieu de songer à s'endormir, il se mit à chercher à quelle bonne et belle opération d'usure il pourrait employer les fonds qui venaient de lui rentrer. Le sommeil, avec son cortège de riantes illusions, était déjà descendu sur les paupières de Déborah. À mesure que le crépuscule faisait place à la nuit, la fraîcheur du soir augmentait. Bientôt, cette fraîcheur devint telle qu'Hébé et la mère Moloch durent quitter le banc de pierre sur lequel elles avaient été assises jusque-là et rentrer dans l'hôtellerie du port armé. Le malheureux coq, destiné à être servi sous le pseudonyme menteur de poulet, au souper du juif et de sa fille, rôtissait ses membres étiques devant un feu maigre et mal entretenu. L'hôtelier ne se trouvait pas dans la cuisine. L'ignoble Marie Thorne, dont nous avons dit deux mots, agitait avec une cuillère de bois le contenu d'un chaudron posé sur les cendres chaudes. Elle ne fit pas attention aux deux femmes. Hébé ouvrit la porte du cabinet rempli de paille dans lequel elle devait coucher. Elles entrèrent dans ce cabinet, refermèrent la porte sur elles, et toutes frissonnantes, car les vitres cassées laissaient pénétrer l'air de la nuit, elles s'étendirent sur les bottes de paille où elles ne tardèrent pas à s'endormir. Plusieurs heures s'écoulèrent ainsi. Puis l'impression du froid devint telle que la souffrance réveilla Hébé. La nuit devait être avancée. La lune, aux deux tiers de sa croissance, jetait ses rayons blancs par la fenêtre brisée. À cette lueur s'en mêlait une autre plus vive. C'étaient des clartés intermittentes qui venaient de la cuisine à travers les fentes de la porte. On entendait aussi le bruit monotone de voix étouffées à dessein. Hébé se leva pour rendre un peu de souplesse à ses membres engourdis et endoloris. Machinalement, elle appliqua l'un de ses yeux à une fente des planches disjointes. Elle vit qu'un grand feu de sarment pétillait dans la cheminée, avec une flamme chaude et joyeuse. Deux hommes, assis auprès de ce feu, se versaient à tour de rôle le vin violet, contenu dans un grand broc, et causaient, penchés l'un vers l'autre. Ces deux hommes étaient le maître de l'hôtellerie et son garçon d'écurie. Ils parlaient bas, mais l'on sait combien est profond le silence des nuits, et comment la voix humaine se distingue au milieu du calme de la nature endormie. Hébé écouta. Voici ce qu'elle entendit. « Je te soutiens, » murmurait le maître, « que ce vieux petit juif bossu est pauvre comme Job, et que tout ce qu'il pourra faire sera de me payer demain son écot. Est-ce que s'il avait de l'argent, il voyagerait avec sa fille en pareil équipage? Son bidet ne vaut pas trois pistoles. Celui qui l'achèterait à ce prix serait volé. « Vous n'avez donc pas vu la valise ?» demanda le valet. Une petite valise en cuir noir, tout usée.
Oui.
Si, par Dieu, je l'ai vue. Mais l'avez-vous eue entre vos mains?
Non.
Eh bien, elle est assez lourde pour fatiguer la main qui la porte.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans?
Voilà ce que j'ai demandé au juif bossu.
Et que t'a-t-il répondu?
Que c'était du plomb et de l'étain.
Je parierais qu'il disait vrai.
Et moi, je mettrais ma tête à couper qu'il mentait.
Mais pourquoi enfin? Pourquoi?
Pour deux raisons.
Lesquelles?
D'abord, parce qu'il avait une horrible peur de me voir mettre la main sur cette valise.
Si je l'ai touchée, c'est malgré lui.
Et ensuite?
Ah, ensuite, parce qu'en la lui rendant, j'ai entendu distinctement le bruit que produisent des louis et des écus qui se choquent.